SBS Audio is supported by advertising.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Vous êtes avec SBS French.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, troisième partie de notre épisode consacré à l'ancien Premier ministre Paul Keating. Dans celui-ci, on va s'intéresser à la période durant laquelle Paul Keating commence à prendre ses distances avec le Premier ministre Bob Hawke, dont il est très proche. Des distances qui vont finir par le conduire à prendre la tête du Parti travailliste et à devenir lui-même Premier ministre. Très bonne écoute à tous. Je voulais revenir maintenant sur quelque chose que vous avez dit un peu plus tôt, en gros au moment de cette cohabitation, on va dire, au sein du gouvernement de Bob Hawke, vous expliquiez que Paul Keating avait eu l'intelligence de réfréner ses ambitions en se rendant compte que Bob Hawke était extrêmement populaire et qu'il avait donc les plus fortes chances de continuer à gagner des élections et à se placer donc à son service, un peu en retrait. Et dans l'épisode consacré à Bob Hawke, on avait également expliqué que ces deux hommes, on avait Bob Hawke qui était plutôt issu d'un milieu bourgeois, mais qui avait vraiment cette image d'homme du peuple capable de sympathiser avec tout le monde. Vous le compariez tout à l'heure à Chirac. Et vous compariez Paul Keating à Balladur, donc peut-être un peu plus austère. Et lui, malgré des origines très humbles qu'on a évoquées à tout début de cet épisode, il me semble que dans sa vie d'adulte, il va avoir des goûts presque d'aristocrate, en fait. Vous pouvez nous parler un petit peu de son style de vie, sa personnalité
Du point de vue personnel, effectivement, Keating, qui a des aspirations tout à fait bourgeoises. Très jeune, je me souviens plus quelle voiture de sport il s'achète, mais je sais plus si c'est une Jaguar, enfin quelque chose qui valait beaucoup d'argent et qui était très 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 tape à l'œil, de mémoire, une décapotable en plus, enfin voyez un peu cette exubérance là. C'est quelqu'un qui collectionne les antiquités, qui collectionne plutôt les objets d'art. Il a un goût particulier pour l'époque de la Régence britannique et de l'Empire français. Il aime la grande musique, il aime la peinture, la sculpture. Et en fait, on peut l'interpréter un peu comme une revanche sur la vie, c'est-à-dire que tout ce dont il avait été privé quand il était plus petit, il a acquis cette connaissance. Et là où il pouvait acquérir des objets, il l'a fait. C'est quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur. Est-ce que c'est une revanche sociale? Est-ce que c'est un goût individuel? Est-ce que c'est un peu des deux? Je ne pourrais pas vous le dire. Mais c'est vrai que c'est un marqueur de Paul Keating. C'est un goût pour l'érudition, pour la lecture, pour les belles choses, beaucoup plus marqué que des anciens premiers ministres de gauche comme de droite, qui, étant de toute façon nés dans des classes dirigeantes ou des élites, ne sentaient pas le besoin, si vous voulez, d'émuler ce genre de comportement, puisque vivant dedans. Voilà.
Ok. Alors, cette alliance avec Bob Hawke, les choses commencent un petit peu à changer de nature au tournant des années 90. Paul Keating a envie de prendre la place de Bob Hawke. Et c'est à peu près à la même période que cet homme qui, dans sa jeunesse, tenait des positions, sur le plan sociétal en tout cas, assez conservatrices, même si pour certaines, donc on a compris que ça partait plus d'une critique, pour le dire vite, du capitalisme que de la montée en puissance des femmes dans la société, mais qui va se faire un très ardent défenseur de certaines causes, notamment la cause aborigène. Et il a prononcé un discours en particulier qui est resté dans les annales, c'est le discours de Redfern Park. Qu'est-ce qu'il dit à cette occasion?
Alors avant de revenir sur Redfern, il y a un point que je voudrais présenter. Keating, c'est l'homme de la big picture. c'est sa plateforme électorale, je sais pas comment on pourrait traduire ça, mais de la grande vision ou de enfin c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui veut changer l'Australie à plein d'égards. Il ne veut plus de la monarchie, il ne veut plus que le chef d'État soit la reine d'Angleterre, il veut que l'Australie se prenne entre ses propres mains et devienne un pays totalement indépendant qui choisit son chef de l'État. Donc, au sein de la vision de l'Australie de Todd Keating, il y a l'indépendance farouche. Donc, la République. Mais il y a aussi potentiellement le changement des symboles. Est-ce qu'on a le bon drapeau avec l'Union Jack qui est intégré dans le drapeau australien? Est-ce que ce n'est pas le fait colonial? Est-ce qu'on ne devrait pas changer de drapeau, changer de référent, de symbolique pour que ce soit plus australienne qu'elle ne l'est et moins britannique? Et à l'intérieur de cette grande vision nationale, il y a effectivement la cause aborigène. Alors Bob Hawke, hein, lui-même était tout à fait conscient de ces questions. Il avait promis un traité qu'il n'avait jamais donné, pour tout un tas de raisons. Paul Keating, lui, à Sydney, devant un aéropage d'aborigènes et de membres de la communauté.
Alors, je rappelle pour les auditeurs qui ne sont pas de... Pardonnez-moi de vous couper, je rappelle simplement pour les auditeurs qui ne sont pas, qui connaissent pas bien Sydney, que Redfern, le quartier relativement proche du centre-ville, c'est historiquement un quartier aborigène de Sydney, qu'il est peut-être un peu moins aujourd'hui parce que c'est pas mal gentrifié, mais c'est sûrement le quartier de Sydney où la proportion des aborigènes est la plus importante. Pardon de vous avoir interrompu.
Et à l'époque, socialement, c'est pas ce que c'est aujourd'hui. C'est un
ça craint un
quartier
peu.
Voilà, qu'on pourrait dire défavorisé. Et alors lui va à la ferme et il explique devant les télévisions de tout le pays, ce sont nous avons commis les meurtres, nous avons pris les enfants de leur mère. Vous imaginez un premier ministre qui dit ça, qui reconnaît les effets négatifs de la colonisation sur le peuple aborigène. Il explique, nous avons détruit le mode de vie traditionnel. Et c'est important parce que Keating, il arrive à un moment où en 92, il y a la décision Mabo, qui explique qu'effectivement, les populations ancestrales australiennes ont des droits sur la terre. On a fait un certain nombre d'épisodes qui évoquent la doctrine de Terra Nullius, c'est-à-dire que les Britanniques arrivent et disent « c'est la terre de personne, eh bien c'est à nous, circuler, il n'y a rien à voir. Et par ailleurs, on va vous coller des massacres et un génocide en Tasmanie. » Bon, Keating dit « mais non, c'est pas possible, c'est absolument absurde, et donc nous devons, et il insiste là-dessus, reconnaître la colonisation. Deux, reconnaître que les aborigènes ont des droits sur les terres qui ont été volées. Et donc, de ce point de vue-là, il mettra en place le Native Title Act, qui est une loi extrêmement importante sur qui ouvre la voie au retour des terres aux aborigènes, qui sera évidemment raccourci, tronqué, amoindri par John Howard après, mais qui à l'époque est très importante. Et il dit ici, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité sur les massacres. Il faut dire la vérité sur la colonisation. Et enfin, dernier point, il aimerait bien, il ouvre la voie vers une sorte d'autodétermination des aborigènes au sein de la communauté australienne. Et donc, il est à la fois en avance sur son temps, parce que effectivement, c'est quelque chose que les aborigènes demandaient depuis déjà des décennies et qui a été soutenu par une petite portion de l'électorat australien. Et lui a le courage, en tant que Premier ministre, de dire bah, « il faut aller plus loin ». Et c'est vrai qu'il a beaucoup de fait. Alors on aurait pu toujours faire plus, évidemment. Mais enfin, c'est un pas en avant spectaculaire, tellement spectaculaire que dès que John Howard, le premier ministre de droite qui lui succède, arrive au pouvoir, il passera quelques années à détricoter ce qui avait été mis en place par les deux gouvernements de Paul Keating.
Ok. Alors, Paul Keating, donc, il va réussir à reprendre le leadership du Parti travailliste à Bob Hawke, ça on l'a dit, et puis donc il va être confronté aux premières élections fédérales en 93, et ça s'annonce quand même pas très bien, parce que bah déjà ça fait 10 ans que les travaillistes sont au pouvoir, et comme tout gouvernement qui reste très longtemps, les électeurs finissent parfois un peu par se lasser. On l'a dit un peu plus tôt, à peine 2 ans plus tôt, il y a eu une récession économique, Tous les sondages prédisent donc que la droite va revenir au pouvoir, et pourtant, non, c'est les travaillistes qui vont l'emporter. Et c'est dû, évidemment, pas uniquement à ça, mais c'est dû aussi donc à cette fameuse verbe, à ce fameux sens de la répartie de Paul Keating, qui, au cours de cette période de campagne électorale, va vraiment faire beaucoup, beaucoup de mal aux leaders du parti libéral de l'époque, avec des répliques vraiment cinglantes.
Oui, et pendant des années, John Howard lui en voudra, parce que Keating, c'était des attaques personnelles, et on continue. C'est quelqu'un que vous mettez sur le ring politique et qui frappe. Il continue de frapper. Il ne laisse aucun répit à ses adversaires. Il occupe l'espace médiatique, il trouve les bons mots qui font rire tout le monde. De mémoire, d'ailleurs, il y a un petit livre sur les citations ou les blagues de Paul Keating que vous pouvez acheter en Australie. Tellement ça marque, on voit mal le petit livre des blagues de Michel Rocard, par exemple. Bon, ça existe pour Paul Keating. Il a laissé des mots assez connus en Australie. Il avait dit que John Howard, plus tard, et son ministre des Finances, il les avait comparés à un iceberg, mais il n'y avait que la pointe et rien en dessous, pour dire, voilà, vous voyez, c'est des gens dont la vacuité est absolument exceptionnelle, ils nous font croire à quelque chose, mais en fait, il n'y a rien en dessus.
Nobody knows Australia like Ernie Dingo. And the reason's simple. He's never stopped exploring.
You've got to tell me about this.
On the new season of Going Places with Ernie Dingo, Ernie's joined by Mark Cole Smith.
This is such a unique experience.
Ray Johnston and Brooke Blurton.
Magnificent.
It's pretty special.
They'll show you our country at its most breathtaking.
Oh, my. Amazing.
Going Places with Ernie Dingo. Stream free on SBS On Demand.
Vous parliez d'attaques personnelles, mais c'est aussi un peu des attaques sous la ceinture, enfin en l'occurrence des attaques carrément sur le physique des personnes, puisqu'il me semble que pour ce qui est de John Howard, il s'est notamment allègrement moqué de ses gros sourcils, ce qui peut paraître un peu léger pour un homme politique de premier plan quand même.
Oui, ouais, ouais. Sous la ceinture, bon, j'allais pas nécessairement rentrer là-dedans, mais c'est vrai que Keating peut manier les mots au fin fond et aux confins des dictionnaires, mais il peut aussi être assez violent et assez, comment dirais-je, voilà, des blagues un peu misogynes, machistes sur le physique de John Howard. Et c'est vrai que il y a cet aspect-là, cet aspect de combattant, mais il y a aussi le fait qu'en 92-93, son gouvernement arrive à redresser la barre. C'est-à-dire que les années un peu dures de marasme économique 90-91 sont derrière. Voilà, c'est une courte victoire, mais quand on est donné perdant, une courte victoire, c'est une belle victoire. Parce que effectivement, il n'y a pas que sa personnalité, il y a aussi les réformes qu'il a mises en place, et parce que les Australiens étaient demandeurs à la fois de changements sociaux et de plus de protection sociale, ce qu'il octroiera en améliorant la sécurité sociale australienne médicaire, et surtout, comment dirais-je, certains Australiens sont convaincus qu'effectivement, la grande vision de Paul Keating pour plus de droits aux aborigènes, devenir une république, il y a une vision politique. Alors que ce que John Howard propose, c'est juste d'être des conservateurs traditionnels, on s'occupe de la police, de l'armée et des bonnes valeurs traditionnelles australiennes. Donc si vous voulez, ça vend un peu moins de rêve quand vous arrivez sur une élection. Vous pouvez avoir non seulement une politique économique, mais surtout des valeurs ou une idée à proposer à ce que la nation devrait être. Et donc, la mayonnaise monte, quoi. Enfin, elle prend.
Ok. Alors, avant de passer à la suite, moi, j'avoue que ces petites citations, j'en ai lu pas mal et je voudrais quand même en citer deux qui m'ont beaucoup plu. Peut-être le goût du sang, je ne sais pas, mais il y en a une qui est très connue, on la trouve facilement sur YouTube ou... je ne crois pas que c'est John Howard, c'est un autre dirigeant du Parti libéral qui s'adresse à lui et qui lui dit donc quelques mois avant ces fameuses élections de 93, mais Paul Keating, votre gouvernement est à bout, pourquoi vous n'appelez pas les élections dès maintenant? C'est parce que vous avez peur de perdre, etc., etc. Et il lui répond, je vais le traduire approximativement en français, c'est parce que je veux prendre mon temps pour vous achever. Donc ça, c'est quand même assez brutal. Et je crois que le même homme, un jour au Parlement, donc fait une critique de sa politique de manière générale, qui se veut très cinglante, et lui répond, se faire critiquer par ce monsieur, c'est comme se faire fouetter par une laitue tiède. Voilà, des images qu'on a tout de suite en tête, c'est assez imaginatif, mais moi, ça me plaît bien, je dois reconnaître.
Les insultes de Keating sont toujours très visuelles. Attention à la connotation sexuelle de la première...
Oui, je l'ai traduit de façon
C'est « I want to do you slowly » en anglais. Et donc, ça a un double sens assez...
On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous propose de nous retrouver dans quelques jours pour retrouver la quatrième partie de cet épisode consacré à Paul Keating. On s'intéressera plus précisément dans celui-ci à la politique qu'il a mise en place une fois au pouvoir. À très bientôt.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
Starting 5th of March on SBS On Demand, The Hospital in the Deep End. Our hospitals are under pressure like never before.
Oh my God.
And when the system buckles, we all pay the price.
That's not good.
In this landmark series, three notable Australians step onto the front line to see what it really takes to save a life.
I honestly didn't think it was like that.
The Hospital in the Deep End starts 5th of March on SBS On Demand.